Ils sont l'un des rouages essentiels de la machine audiovisuelle. Les producteurs de fiction vivent une période particulièrement chargée en ce moment. Ils sont confrontés à la colère de certains scénaristes qui estiment être mal payés et mal considérés. Ils se préparent à une petite révolution, la contribution bientôt obligatoire des plateformes au financement des fictions françaises, une manne financière pour eux. Et puis, ils continuent à s'occuper de leurs films ou de leurs séries en cours d'écriture, de tournage. Quel programme ? Bonjour Thomas Anargyros.
Bonjour.
Vous êtes producteur, vous êtes le président de Media One Studio. À ce titre, c'est vous qui vous occupez des documentaires, des fictions et des coproductions internationales au sein du groupe Media One. Vous dirigez également l'USPA, le syndicat des producteurs de l'audiovisuel, fonction qui font de vous l'un des principaux interlocuteurs des chaînes et des plateformes. Alors avant de parler des sujets évoqués en introduction, quelques mots d'abord sur une mini-série que vous avez produite et qui a cartonné avant-hier soir sur TF1, Le Remplaçant, avec Joey Starr. 6,5 millions de téléspectateurs pour les deux épisodes qui suivaient. Je sais que la question est difficile, mais à quoi vous attribuez ce succès ?
Je l'attribue évidemment d'abord à la qualité du programme, aussi au fait que Joey Starr est à la fois vraiment une vraie star en France, et on le découvre un peu plus à chaque fois qu'on peut le voir, mais aussi que c'est vraiment un très grand acteur. Et ce qu'il a fait comme travail d'acteur dans cette série, qu'il a en partie initié, il y tenait énormément. Et puis le dernier élément, c'est que même si ça traite de sujets difficiles, ça traite de sujets autour de l'école, autour de la paternité cachée, des choses comme ça, il y a néanmoins quelque chose d'extrêmement feel-good, et en particulier dans le rôle qui est incarné par Joey Starr. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont le public a certainement besoin en ce moment. Et voilà, on est très heureux puisque TF1, évidemment, va continuer l'aventure
avec beaucoup de
nouveaux épisodes.
C'était une micro-série, on ne savait pas, il y avait un test, il y avait deux épisodes.
C'était un pilote, en fait.
L'histoire était bouclée. Ouais. D'après vous, combien d'épisodes vont être commandés?
Ça va être une série qui, à mon avis, est partie pour durer. On avait déjà, TF1 croyait déjà beaucoup au potentiel de série du remplaçant, donc il avait commandé une deuxième soirée et la possibilité de continuer. Donc a priori, on va la produire cet été, une soirée, et ensuite très rapidement trois soirées supplémentaires.
Est-ce qu'on peut dire que ça serait pour remplacer Section de Recherche, par exemple ?
Je crois pas que ça corresponde exactement, mais en tout cas, on est évidemment déçu que Section de Recherche, malgré ses très bons scores, mais très heureux d'avoir beaucoup de nouvelles séries comme Le Remplaçant, comme HPI sur TF1 qui arrive bientôt et qui aussi, ça a une certaine logique.
On va y venir, justement. Je vais rester sur Section de Recherche, qu'on l'a appris hier. Les audiences sont très bonnes, vous l'avez dit, près de 5 700 000 téléspectateurs en moyenne pour la 14e saison diffusée de janvier à mars dernier. Pourtant, TF1 a pris la décision d'arrêter cette série produite par vous. C'est pour ça que je faisais le lien, quand bien même était-il un peu artificiel. Pourquoi arrête-t-il cette série ?
De ce qu'ils nous disent, c'est réellement leur volonté de renouveler les séries qu'ils ont à l'antenne. Et j'ai envie de dire que cet argument-là, évidemment, on peut l'entendre.
Il y a aussi un autre argument. Il y a aussi la part de marché sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, qui est moins de 17%, ce qui est peu pour TF1.
Ouais, mais
ce qui n'est pas dans les standards de TF1.
Je suis d'accord, mais alors dans ce cas-là, attendons de voir, puisque Léo Mattei, jeudi dernier, a fait 14% sur le public des FRDA.
Ouais.
Donc j'attends de voir si Léo Mattei va continuer ou s'arrêter, si c'est vraiment ça le critère. Moi, je peux entendre le critère qui est de dire on est arrivé au bout d'une aventure, et d'ailleurs on va la finir bien avec, j'espère, une ou plusieurs soirées pour boucler cette série qui a 15 ans. Et objectivement, c'est vrai qu'il n'y a quasiment plus aucun pays aujourd'hui dans le monde, à part des séries d'Access ou des feuilletons quotidiens, qui peuvent durer sur de telles durées. En même temps, c'est vrai aujourd'hui, donc on est très heureux de remplacer avec de nouvelles séries, comme encore une fois HPI, comme Luther qui va arriver, comme Les Fugueuses qui vont arriver. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent, entre autres pour TF1. Mais néanmoins, c'est vrai que alors que les scores ont été même plus élevés que l'année dernière sur Section de Recherche, je voudrais que soit appliquée pour Section de Recherche la même chose à toutes les séries un peu anciennes et qui sont très faibles en ménagère, en FRDA.
Vous avez d'autres noms en sus de Léo Mattei ?
Non, je ne les ai pas là sous la main. Je pense ça parce que effectivement, ils nous ont annoncé, comme si ça a été annoncé cette semaine, ils nous l'ont annoncé parce qu'ils sont néanmoins très, très corrects. Donc, ils nous ont prévenu la semaine dernière qu'ils comptaient arrêter section de recherche. Comme il se trouve qu'à peu près au même moment, j'ai vu que Léo Mattei faisait 14% sur le public FRDA, qui est celui sur lequel on serait un peu faible, mais largement au-dessus. J'attends de voir ce qui va se passer.
Ouais. Alors, ce qui compte, c'est de trouver de bonnes histoires, quel que soit le genre, et surtout la bonne manière de les raconter. Et ça, c'est le travail des scénaristes, c'est le cœur de nos sujets aujourd'hui. Et certains sont en colère, je ne vous apprends rien, ils réclament entre autres davantage de reconnaissance. C'est le cas notamment de ceux qui ont écrit la première saison de la série En Thérapie, diffusée par Arte. Nous en avions parlé il y a 2 semaines avec Marie Roussin, elle est la présidente de la Guilde française des scénaristes.
La colère des scénaristes d'En Thérapie, de la saison 1, c'était pas réellement parce qu'ils n'étaient pas considérés comme auteurs. C'est parce que les réalisateurs ont été mis en avant presque comme seuls auteurs de la série. C'est surtout ça. C'est-à-dire que.
Et les réalisateurs, c'est pas n'importe qui, c'est Nakache et Toledano.
Absolument.
Qui ont fait Le Goût de la Fête, Intouchable et de grands films comme ça. C'était des
et
grands
qui ont fait un travail
cinéma.
Formidable sur En Thérapie.
Absolument.
Le souci, c'est que le travail formidable avait été fait pas seulement par eux, mais aussi par les scénaristes qui, eux, pour le coup, sont passés, mais alors absolument à la trappe. Mais absolument, de façon absolument scandaleuse.
Alors je précise qu'En Thérapie n'est pas produit par Media One, mais pour reprendre ce terme, est-ce que vous trouvez scandaleux de ne pas mettre davantage en avant les scénaristes ?
Alors, tout ça est un sujet très complexe. La première chose, c'est qu'on sent bien en ce moment qu'il y a effectivement un malaise du côté des scénaristes. Et c'est quelque chose qui doit être entendu et qui doit être entendu par tout le monde, par les producteurs, par les réalisateurs, par les diffuseurs, par tout le monde. Ce malaise, il est notoirement, là. En même temps, il doit aussi être mis en perspective avec le chemin qui a été parcouru ces dernières années, et en particulier en termes de rémunération et de comparaison avec les autres pays européens. En même temps, les scénaristes, c'est un acteur absolument majeur de la création. C'est le premier acteur avec lequel on travaille. Donc, c'est celui sur lequel tout repose. Je rappelle ce que disait Clouzot, un film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Ouais. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Donc, le sujet, il n'est pas là.
Après, alors, je vais vous dire la chose différemment. Vous citez Clouzot, je vais citer Jean Cocteau. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Les scénaristes eux-mêmes disent, c'est le cœur du film, c'est le scénario, et nous sommes quasiment les seuls à le dire. Et les producteurs, combien même le disent-ils, cette phrase-là n'est pas traduite en acte. C'est ça, le cœur du sujet.
Je ne suis pas d'accord là-dessus. Et effectivement, il faut qu'on mette un moment les choses sur la table pour se les dire. Maintenant, je pense que c'est important que je réponde juste d'un mot sur ce qui a été dit par Marie Roussin, qui est une très bonne scénariste. Alors, un des soucis, effectivement, des scénaristes, c'est un souci ancestral, j'ai envie de dire, c'est un souci d'invisibilité. C'est-à-dire qu'ils souffrent de ne pas être assez visibles, et c'est exactement ce qui est dit par Marie Roussin dans l'extrait que vous avez passé. C'est un problème, je dis ancestral, parce que le cinéma français, on le sait, depuis les années 60-70, il s'est construit sur le modèle de l'auteur-réalisateur. Ouais. Et effectivement, comme c'était beaucoup des auteurs-réalisateurs, la place était le réalisateur, qui souvent était auteur aussi. En télévision, ça a en partie continué, et même quand on est rentré dans une phase, alors comme vous le savez, ça a été pendant très longtemps la télévision française des unitaires, et ces unitaires, du coup, c'est vrai que, comme dans le cinéma, c'était toujours le réalisateur qui était mis en avant. Alors, d'abord, aujourd'hui, les choses quand même changent considérablement, quand on voit les phénomènes qui peuvent être créés autour de scénaristes comme Fanny Herrero et d'autres, on voit bien que dans le modèle des États-Unis et d'ailleurs, les scénaristes sont en train de prendre toute leur juste place. Concernant En Thérapie, ce que je trouve un petit peu compliqué, c'est que ces auteurs, je le rappelle simplement, En Thérapie, c'est une adaptation. C'est l'adaptation d'une série israélienne. Et à un moment, malgré tout, un auteur qui adapte une série qui a été entièrement écrite, quel que soit le travail qu'il fait dessus, n'est quand même pas le travail d'un créateur de série. Donc je veux juste dire que si les auteurs de En Thérapie, les auteurs français d'En Thérapie avaient créé cette série, ils auraient eu une place qui aurait été sans commune mesure.
Voilà. Et je le précise que vous en parlez avec d'autant plus de liberté, car vous n'êtes pas les producteurs d'En Thérapie à Media One. Vous restez avec nous, Thomas Anargyros, Culture Média continue. On va continuer à parler de ce problème des scénaristes et aussi d'argent un tout petit peu quand même. À tout de suite. En compagnie de Thomas Anargyros, vous êtes producteur et vous êtes aussi le président de Media One Studio. On parle avec vous des scénaristes, de cette colère des scénaristes qui n'est pas récente. En 2014 déjà, ils se plaignaient d'être moins bien rémunérés que les scénaristes américains. Je vous cite un extrait d'un papier des Échos. C'était le 28 février 2014. Le journal économique écrit « Malgré une évolution à la hausse, un scénariste reçoit en France en moyenne entre 1,5 et 3% du budget d'un film, alors que cette part monte jusqu'à 10% aux États-Unis. » Et ce sont des chiffres qu'on entend encore aujourd'hui. Les scénaristes voudraient des minima de cet ordre, 10% du budget d'un film. Vous êtes producteur, que leur répondez-vous ?
Je leur réponds qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les chiffres, comme toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je ne veux pas faire de la polémique.
Alors celui-ci, il est bon, il est mauvais ? 1,5 à 3 en France, 10% aux États-Unis, sont des bons ou des mauvais ?
Deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans le malaise des scénaristes, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les pratiques du cinéma. Pas sur celles des séries télévisées où les choses sont excessivement encadrées et normées. Effectivement, en cinéma, et comme le disait d'ailleurs Marie Roussin aussi dans son émission, elle disait, mais sans préciser qu'il s'agissait du cinéma, pas de la télévision, il peut arriver effectivement qu'en cinéma, sur un contrat de scénariste, il y ait une partie qui soit payée au moment de l'écriture et une partie qui soit payée au moment où le film rentre en production. On sait qu'en cinéma, il y a beaucoup de films qui ne rentrent jamais en production.
Elle faisait la différence, hein, Marie Roussin, sur ce thème-là.
En télévision, c'est la quasi-totalité des projets qui rentrent en production, mais surtout, la totalité des montants d'écriture sont payés au travers d'un échéancier qui est réglé entre le producteur, l'agent du scénariste et le diffuseur pendant l'écriture.
Combien même la série ne se fait pas.
Exactement, 100%. La seule différence, comme vous le savez, en France, il y a le paiement initial qui est toute la rémunération du scénariste pour son travail. Et puis il y a une deuxième rémunération qu'on appelle la gestion collective, c'est la SACD, qui elle, lorsque les téléfilms, les séries sont diffusées, le scénariste touche à chaque diffusion.
D'accord. Touche combien, pardon ? Parce que la seule question sur le point sur lequel vous n'avez pas répondu, c'est 3% en France, 10% aux États-Unis. Vous contestez ce chiffre ?
Totalement. Vous... Alors là-dessus, j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'aujourd'hui, d'après les chiffres de la SACD, aujourd'hui, en France, ça représente à peu près 3,9-4% du montant du budget qui est alloué aux scénaristes. Je précise que dans un benchmark européen qui est totalement disponible...
Benchmark, c'est une comparaison.
Comparaison, pardon, européenne. Nous sommes en France le pays qui rémunère le mieux les scénaristes. Ah, évidemment, il s'agit de moyenne. Hein. On peut toujours trouver des exemples. Et quant aux États-Unis, là, je parle d'expérience, puisqu'il se trouve que lorsque j'étais président d'EuropaCorp Télévision, on avait créé une filiale aux États-Unis et j'ai produit, moi, directement, la série Taken, qui était inspirée de la franchise, dans laquelle il y a eu 10 épisodes, puis 16 épisodes, en coproduction avec Universal pour NBC. Et je peux vous garantir que les montants d'écriture aux États-Unis sont entre 4 et 4,5%. Mais ce qui est d'ailleurs énorme, puisque là-bas, les budgets sont très importants. Mais c'est totalement là. Alors après, on peut trouver des exemples particuliers. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Évidemment qu'il y a sûrement des exemples particuliers à 10% sur des séries extrêmement low-cost aux États-Unis. Mais à un moment, si on veut se mettre d'accord sur des chiffres, il faut qu'on parle de moyenne et il faut qu'on parle de choses comparables.
On n'a pas le temps d'en parler maintenant, non pas parce qu'on voudrait éluder la question, mais parce qu'on a plein de sujets encore à vous soumettre. Thomas Anargyros, les séries, les fictions que vous produisez intéressent de plus en plus les plateformes étrangères, Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+. Elles vont devoir en proposer de plus en plus en France, c'est la loi. Conséquence d'un décret qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain, le décret SMAD pour service des médias audiovisuels à la demande. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit tout simplement des plateformes américaines qui vont intégrer le système de l'exception culturelle française, on peut l'appeler comme ça, à travers lequel nous tous, scénaristes, acteurs, l'ensemble des techniciens, les producteurs, avons une chance effectivement assez extraordinaire, qui est un système dans lequel un pourcentage du chiffre d'affaires de ces plateformes, comme aujourd'hui des chaînes de télévision, doit être obligatoirement investi vers les œuvres patrimoniales, c'est-à-dire vers le cinéma, les séries, les documentaires, l'animation.
Voilà. Et ce n'est pas Epsilon, c'est 20%.
C'est 20%, c'est un chiffre qui est réellement très important, c'est une très bonne nouvelle et qui accompagne d'ailleurs, concernant les scénaristes, le fait qu'il y a une augmentation du volume considérable, plus 40% dans les 5 dernières années sans les plateformes. Donc de toute façon, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et on discute déjà énormément sur beaucoup de sujets, sur les ateliers d'écriture qui sont l'équivalent des writing rooms des séries américaines. Il y a aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent, il va y avoir une augmentation du volume de production, des séries, de l'animation, des documentaires, du cinéma, qui va être importante. Tout ça est très compliqué parce qu'il y a en même temps une révision du décret des chaînes historiques en ce moment. Mais néanmoins, on a aujourd'hui cette chance-là. Donc mettons-nous autour d'une table, on le fait déjà, mais de façon un peu plus sereine. Ouais. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce malaise, on l'entend. Mais à un moment, il faut qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle.
Que va-t-il se passer ? Il y aura des séries qui seront mieux rémunérées, ou des séries ou des fictions, où il y en aura davantage. Est-ce qu'il y aura un effet d'aubaine, comme le dit avec un peu de malice l'économiste du cinéma Alain Le Diberdère ?
Très grand et très grand économiste de l'audiovisuel et qui est très pertinent. Je pense qu'on va réellement apprendre en marchant. Il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de choses différentes. Je pense que les plateformes vont explorer beaucoup de domaines et vont à la fois faire des séries comme Lupin, qui sont effectivement des séries qui vont être avec des budgets importants, avec des stars qui leur permettront à la fois de faire un succès en France, mais aussi dans le reste du monde. Mais elles vont faire aussi des séries qui seront sans doute beaucoup plus nationales. On voit bien d'ailleurs Netflix dans sa dernière conférence de presse dire quasiment qu'ils vont devenir le TF1 des plateformes, quelque chose de beaucoup plus mainstream. Alors ça va être évidemment différent de TF1, mais ce qui est complètement différent de ce qu'ils faisaient il y a un an ou deux. Donc c'est une période absolument extraordinaire et fascinante, dans laquelle on a quand même une très très grande chance, et dans laquelle on va aussi effectivement découvrir et apprendre en marchant.
Autre obligation, autre quota à venir pour les plateformes, cette fois c'est au niveau européen, proposer 30% d'œuvres européennes dans chacun des pays de l'Union. Elles vont donc avoir besoin très vite de contenus déjà diffusables. Autrement dit, elles vont devoir acheter des catalogues de contenus. C'est ce qu'a fait Netflix avec des producteurs scandinaves. Est-ce que les plateformes vous ont approché, vous, à MediaOne, pour acheter des contenus ?
On a des discussions en vérité depuis évidemment déjà des années avec les différentes plateformes et nous travaillons là-dessus. Maintenant,
alors, je vais poser ma question différemment. Est-ce que les discussions ont changé ? Est-ce que vos interlocuteurs disent il faut qu'on achète
non,
à tout
non,
prix ?
Non. Aujourd'hui, en plus aujourd'hui en France, même si ce que vous dites est juste, aujourd'hui les plateformes françaises sont essentiellement concentrées sur ces nouvelles obligations qui sont uniques en Europe et unique dans le monde, hein, quasiment, et en tout cas à ce niveau-là, et donc vont se consacrer à la production d'œuvres françaises.
Dernière question rapidement, Anne Holmes, la directrice de la fiction nationale à France Télévisions, nous disait il y a quelques jours qu'elle travaillait sur un unitaire de 10%. 10%, c'est une série MediaOne. Où est-ce que vous en êtes de ce projet ?
On avance très bien. L'idée est de qu'elle soit produite cette année pour une diffusion sans doute fin d'année ou début d'année prochaine, et d'embrayer avec une nouvelle série, une nouvelle saison de 10%.
Donc il y aura une saison 5 de 10%.
Absolument, après cet unitaire un peu événement.
C'est la première fois que vous le dites.
Ouais.
Merci de l'avoir dit ici. Merci de cette confidence à Culture Média, Thomas Anargyros. Je rappelle, vous êtes le président de MediaOne Studio. Et je le rappelle, donc plutôt jeune annonce, il y aura une saison 5 de 10%. On est ravis parce qu'on va recevoir demain Dominique Besnéard. Donc on lui en parlera également.